Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre Grand Format. Grand Format qui avait connu une pause pour raison de Coupe d'Afrique des Nations de football. Après le passage de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, du garde des Sceaux Sidiki Kaba, le général Tavares da Souza, quatrième numéro de Grand Format reçoit Amartya Ba, actuel bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Son mandat en cours coïncide avec le procès Karim Ouad, un procès inscrit sans nul doute dans l'histoire politico-judiciaire de notre pays. Notre hôte s'est invité comme par enchantement dans un fait alors qu'il ne s'y attendait alors du tout. Quelle a été sa place et son rôle dans ce procès? Combien de fois s'est-il vu obligé d'intervenir et quel résultat a-t-il pu obtenir? Beaucoup de passion, des invectives, un procès sur fond permanente de tension, limogeage du procureur spécial, démission de l'assesseur, blessure du côté de l'inculpé, évacuation, entre autres faits qui ont dominé ce procès. Un procès dont le verdict est attendu pour ce 23 mars. Que retenir déjà de son déroulement et quelle analyse en tirer par rapport à notre organisation judiciaire? Au bout du compte, ce procès réussira-t-il à relever le défi de la traque des biens supposés mal acquis, la modernisation de la justice, son indépendance, entre autres sujets sur lesquels certainement nous reviendrons tout au long de cette émission, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec mon collègue Ablaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Ablaye, bonjour.
Le plaisir est partagé par Omar Gueye.
Alors, Ablaye, notre invité, qui est-il? D'où vient-il? Description avec vous.
Maître Amartya Ba est né le 27 août 1957 à Dakar. Il est marié, père de 7 enfants. Il est titulaire d'une maîtrise de droit privé. Il est inscrit au barreau de Dakar depuis le 16 juillet 1982, date de la prestation de son serment. Comme je le disais tout à l'heure, donc, il est titulaire d'une maîtrise de droit privé en 1981 à l'Université de Dakar, l'ancêtre de l'Université Cheikh Anta Diop, maître. Maître Ba a toujours maintenu le contact avec le Temple du Savoir. Il a, après 10 années de barre, décidé de repartir en Nantes, en France, pour obtenir un DEA en sciences juridiques de la mer. C'était entre 1992 et 1993. Licence encore en anglais. Décidément, vous n'arrêtez pas avec les études au niveau de la faculté des lettres de l'Université Cheikh Anta Diop en 2005. En 2011, vous décidez encore de repartir à Paris, cette fois-ci pour étudier l'arbitrage international dans le cadre d'un TU. Vous nous direz pourquoi. Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal depuis le 15 juillet 2013. Pour un mandat de 3 ans non renouvelable. Votre hobby, c'est particulièrement le sport, mais vous aimez aussi les loisirs. Pour le sport, vous aimez le golf, vous aimez le tennis. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut dire que ça fait 1 an, 6 mois, 15 jours exactement que vous êtes à la tête de l'Ordre des avocats du Sénégal. Voilà, d'une manière ramassée, Baye Oumar Gueye, celui qui est aujourd'hui au niveau de la barre, Maître Amartya Ba.
Et c'est parti pour la plaidoirie, mais Maître, d'abord, par rapport à votre cursus, à votre CV, abondance de connaissances ne nuit jamais, dit-on.
Mais je vous remercie tout d'abord pour l'invitation. Ainsi que je vous l'ai dit dans votre bureau avant de venir au studio, c'est un énorme plaisir de me retrouver dans les locaux de Sud FM. J'ai eu effectivement au cours de mon cursus à rencontrer des amis qui étaient de cette maison. Je pense notamment à Moussa Paye, à Ibrahim Afal, journaliste émérite, tous deux aujourd'hui disparus, et je m'incline et prie pour le repos de leur âme. J'ai aussi cheminé avec des amis comme Abdou Latif Koulibaly, avec qui j'étais sur les bancs de la faculté pour les études de droit. Et d'autres encore, je voudrais à tous leur adresser un salut amical et fraternel. Vous avez, par votre introduction, soulevé une multitude de questions, mais je considère que c'est le menu de notre entretien et que nous aurons certainement à revenir sur les unes et les autres. Ce que je voudrais dire pour commencer, et je parle d'abord de l'affaire Karim Ouad, dont vous vous êtes fait l'écho et qui va certainement occuper une partie de nos entretiens. L'affaire Karim Ouad, je voudrais qu'on qu'on l'évoque de manière, j'allais dire, en passant. Bien entendu, c'est un procès important qui a marqué les esprits, qui est surmédiatisé, mais je voudrais qu'on se focalise davantage sur les leçons à tirer de cette première expérience, de ce premier procès, pour tirer aujourd'hui les enseignements par rapport à cette question de la traque des biens mal acquis, les enseignements par rapport à la lutte contre la corruption, qui est une question qui préoccupe les États, les avocats, les gens de justice, la société civile, l'opinion. Je rentre d'une réunion à Niamey, où il y avait tous les barreaux de l'UEMOA, mais d'autres barreaux aussi étrangers. Vous savez, les avocats se retrouvent souvent dans des rencontres internationales. Et je peux vous dire que la conférence des barreaux de l'UEMOA, tous les bâtonniers de l'espace UEMOA, se sont arrêtés pour réfléchir sur la corruption dans les milieux judiciaires. Et un confrère a utilisé cette belle expression qui est de dire que c'est devenu un fléau communautaire. Donc si je parle de l'affaire de Karim, les perspectives m'intéressent plus que le procès. Et vous savez très bien, je vous l'ai dit aussi, que le bâtonnier, c'est celui qui est chargé de rappeler les règles, qui connaît les règles, mais qui doit être le premier à les respecter. Donc, il n'est pas dans l'usage, dans nos usages professionnels, d'évoquer des affaires qui sont pendantes, des affaires qui sont en cours, surtout lorsqu'on n'est pas dans l'affaire, on n'est pas constitué, on n'est pas avocat de la cause. Alors, en ce qui concerne les connaissances, vous comprendrez bien que ce qui est demandé à l'avocat, c'est une compétence avérée. Malheureusement, de plus en plus dans des domaines très larges, on demande à l'avocat d'être compétent dans toutes les disciplines du droit, ce qui est pratiquement impossible. Mais nous encourageons les avocats à aller vers des spécialisations. Et j'espère que nous y reviendrons parce que c'est un point important de mon mandat. J'ai mis l'accent sur la formation continue et la formation initiale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et on reviendra certainement sur ce point important dans l'analyse ou dans l'entretien, la justice, c'est pas simplement le prétoire. Le prétoire, ce sont des litiges, mais ce sont des affaires, disons, qui sont dénouées devant les cours, devant les tribunaux. L'avocat doit dénouer d'autres litiges qui ne viennent jamais au tribunal. Et le fait de se focaliser simplement sur un contentieux, dans un contexte qui est marqué par, il faut le dire, les dysfonctionnements, parfois la corruption, cela peut expliquer pourquoi aujourd'hui, et là je vais certainement vous surprendre en faisant tomber un mythe, une idée reçue, les gens croient toujours que les avocats sont des gens riches, sont riches. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation, il y a une grande précarité dans le milieu judiciaire et dans le secteur des avocats. Alors, pourquoi ? On aura certainement l'occasion d'y revenir, je vous remercie.
Oui, on aura certainement l'occasion d'y revenir, mais dans le vif du sujet par rapport au procès Karim Ouad, et justement avec le recul, quelle première observation ?
Alors, la première observation, c'est que très tôt, j'ai demandé l'autorisation au président de la CREI d'intervenir dès le premier jour du procès. Et j'étais venu avec un discours écrit de 2 à 3 pages, mais c'était essentiellement un appel à la sérénité. C'était aussi une façon de demander à tous ces avocats, parce que l'affaire Karim Ouad, les avocats de la défense sont nombreux, et tous ne sont pas simplement des avocats sénégalais. Vous avez dans cette affaire, dans la défense de Karim Ouad, des anciens bâtonniers. Il y a un ancien bâtonnier qui est venu de Paris, Maître Fartois. Il y a des anciens bâtonniers sénégalais, Papa Moussa Félix Sow, Maître Yérim Thiam. Et vous avez 2 bâtonniers en exercice. Le bâtonnier Cyril Djikwe du Bénin, et le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr du barreau de Paris. C'est vous dire donc que normalement, il y a là suffisamment de gens, d'avocats responsables, connaissant les bonnes pratiques d'audience, connaissant les règles professionnelles, pour permettre que les débats se déroulent dans la sérénité, dans la courtoisie. Et j'ai eu à donner ce message, à dire que moi, J'ai déjà beaucoup de choses à faire et j'espère que je viendrai le moins souvent possible pour intervenir. Et chaque fois qu'il y aura un incident, je donne pouvoir aux bâtonniers qui sont dans la salle pour traiter et résoudre les incidents. Et il y en a eu beaucoup.
Oui, vous êtes revenu plusieurs
fois. Je suis revenu, pas plusieurs fois en réalité, peut-être 3-4 fois, mais vous allez me dire que c'est déjà beaucoup. Surtout qu'à la dernière fois, il y a eu une rupture. Les avocats sont partis, les avocats de la défense, pour ne plus jamais revenir. Enfin, pour ne pas revenir jusqu'à ce que l'affaire soit plaidée et mise en délibéré.
Expliquez à l'opinion,
ce qui s'est réellement passé sans entrer dans trop de détails, c'est qu'à un moment, il y a eu un avocat qui a été expulsé de la salle. Maître Amadou Sall, en l'occurrence. Le fait, il faut dire, n'était pas sans précédent, mais il était d'une particulière gravité.
En quoi?
Parce que le président a la police de l'audience, mais vous imaginez un président qui dit à sortez cet avocat et qui demande aux gendarmes de venir sortir l'avocat et des autres avocats qui font une sorte de haie pour dire si vous devez le sortir, ben nous sortirons tous avec lui. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de grenade. Les avocats ont fini par quitter la salle, mais moi j'ai considéré, et le barreau avec moi, que l'incident était trop grave. J'ai eu, quand je suis allé voir le président, j'ai eu à dire, sans rentrer dans les détails, encore une fois, que je ne souhaitais pas qu'il y ait encore un avocat qui puisse être expulsé d'une salle d'audience. D'abord parce que je m'interrogeais sur la base légale. Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de base légale. Et je ne pense pas qu'un président d'une quelconque audience puisse expulser un avocat d'une salle d'audience. Et ça, c'est la position aujourd'hui du Conseil de l'Ordre qui a considéré que le bâtonnier, presque le Conseil à l'unanimité, a considéré que le bâtonnier a eu raison de dire qu'il n'y avait pas de base légale. Alors, maintenant, bien entendu, cet incident, il faut relativiser, ça a été quand même réglé. L'incident a été réglé pour permettre aux avocats de revenir dans la salle d'audience.
Réglé grâce à moi,
c'est trop dire. On a fait une médiation. La cour était dans de bonnes dispositions pour passer, pour oublier l'incident et pour permettre à l'avocat de reprendre sa place. Donc ça aussi, c'est la vérité historique des faits. Mm-hmm. Voilà.
Mm-hmm. Oui, Ablaï.
Comme vous voulez de le rappeler tout à l'heure, votre rôle, c'est de rappeler. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour que certains avocats enfreint l'ordre établi par les avocats eux-mêmes. Je veux être beaucoup plus explicite. Cet article qui est contenu dans l'ordre des avocats qui dit que un avocat qui a exercé des fonctions au niveau de l'État ne peut plus se mettre dans un procès qui est directement concerné, dans lequel l'État est directement concerné.
Oui.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus et on aimerait vraiment avoir un éclairage là-dessus. À quoi pour s'attendre aujourd'hui ces avocats-là?
Oui, en fait, ça, ce débat s'est posé. Il s'est posé en particulier au début.
Oui.
Et j'avoue que moi-même, en tant que bâtonnier, j'ai été interpellé parce que certains avocats considéraient que c'était au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre de dire que ces avocats, compte tenu des fonctions ministérielles occupées dans une période antérieure à 3 ans, par le passé, ne pouvaient pas plaider contre l'État du Sénégal, ni pour ni contre d'ailleurs. Alors, moi, j'ai considéré que c'est une disposition d'une loi. Même si c'est une loi sur l'exercice de la profession d'avocat, ça reste une loi. Et lorsque la loi, l'interprétation de la loi est posée sous forme d'incident ou d'exception liminaire dans le cadre d'une audience, il appartient à la juridiction qui est saisie de trancher la question. Bien entendu, ça c'est une position, j'avoue, qui est personnelle, mais qui est largement partagée. Et c'était pas la première fois d'ailleurs que cela se posait. Il y a eu des juridictions qui ont eu à se prononcer sur cet incident. Donc quand cela a été soulevé auprès de la CRI, l'incident a été vidé d'une certaine façon. La Cour a considéré que elle n'avait pas suffisamment d'informations pour dire que ses avocats ne devaient pas plaider. Et les avocats sont revenus ensuite pour dire que la CRI a presque dégagé en touche en disant qu'il appartenait aux avocats de régler cette question-là. Bon, mais j'avoue que entre-temps, elle a été rattrapée et dépassée par l'actualité.
Oui, vous disiez tout à l'heure, toujours en lien avec la question d'Abdoulaye Thiam, que vous êtes là pour rappeler vos collègues, justement, pour rappeler les règles, la surmédiatisation. Si vous êtes là à rappeler les règles, cette règle a-t-elle été respectée?
Alors, la surmédiatisation, il y a un aspect ou des volets de la surmédiatisation qui ne dépendent pas des avocats, il faut être juste. Maintenant, c'est vrai que les avocats eux-mêmes contribuent, d'une certaine façon, à cette surmédiatisation, pour plusieurs raisons. Parfois, ils considèrent qu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer librement, à tort ou à raison. Et ils considèrent qu'il faut un relais. Et le relais, c'est la presse. D'accord ? Parfois, ils considèrent qu'il y a des dérapages, peut-être, des excès qui sont constatés ici et là, qu'il faut dénoncer. Bon, j'avoue que, pour l'essentiel, chaque fois qu'il y a eu des points de presse, des conférences de presse, j'ai reçu 9 fois sur 10 au moins des demandes. Et j'ai autorisé ou refusé d'autoriser, selon le cas.
Pour combien de fois avez-vous refusé ce genre de demande?
Très rarement. Parce que, si vous voulez, il y a un souci d'équilibre. Par exemple, lorsqu'on a été confronté au problème de l'expulsion de El Hadj Amadou Sall, pendant qu'on était en train de faire des médiations, pour régler non pas seulement le problème de El Hadj Amadou Sall, parce qu'après cela, l'expulsion, on avait soulevé... on avait fait presque un rappel des problèmes, des doléances, et on essayait d'éviter cette rupture, cette cassure qu'il y a eu, qui a fait que les avocats ont quitté la salle d'audience. Alors, pendant ce temps-là, ils voulaient faire un point de presse, j'ai dit non, attendez au moins qu'on aille au bout de ces démarches pour voir ce qu'elles donnent avant d'autoriser ou non la conférence de presse. Mais en règle générale, j'autorise les avocats à parler, même si je constate et je déplore souvent des dérapages.
Alors, dérapages, il y en a
De la part des avocats, dans la communication, par rapport à l'affaire.
Ouais. Il y en a eu des dérapages.
Beaucoup.
Un des grands juristes de ce pays disait avoir été tellement gêné par l'attitude des avocats, des invectives, des insultes. L'attitude des avocats, de vos collègues, comment vous les appréciez avec le recul?
Alors, parfois, il y a des dérapages qui nous poussent à mettre en œuvre des procédures. Vous savez que le bâtonnier, lorsqu'il y a des manquements aux règles de déontologie professionnelle, à certaines règles, il peut s'auto-saisir et décider dans telle affaire, par exemple, qu'il allait désigner un rapporteur. Parfois, il peut interpeller l'avocat, lui demander à s'expliquer. Et parfois, il peut aller au-delà. Par exemple, dans ce dossier Karim Wade, où il y a eu parfois, parce que moi j'ai demandé aux avocats d'intervenir, aux bâtonniers d'intervenir lorsqu'il y avait des incidents, mais récemment, ils m'ont dit, mais bâtonnier, on n'interviendra plus. On n'interviendra plus parce que, parfois, en pleine audience, nous nous sommes fait insulter. Alors, j'ai eu même parfois à faire un communiqué de presse pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Et on est même allé plus loin. On a sanctionné un avocat en conseil de discipline, oui, parce qu'il a eu des propos discourtois à l'égard d'anciens bâtonniers. Voilà. Mais bon, bien entendu, on ne fait pas trop de communication sur ces questions-là.
Donc, mais quelle était la nature de la sanction?
La nature de la sanction, c'est qu'il a été suspendu 3 mois avec sursis. Et il a fait appel pour revenir sur la décision. Mais ça, c'est son droit de faire appel.
Voilà. Alors, au bout du compte, par rapport toujours à ce procès, est-ce que vous pensez que ce procès a-t-il pu relever le défi de la lutte contre la traque des biens supposés mal acquis?
Bon, je pense que ce serait lui assigner une trop grande mission. Maintenant, ce procès, effectivement, est peut-être un début dans cet exercice de traque des biens mal acquis. Mais je pense que il va falloir peut-être, je ne sais pas quand, s'arrêter et évaluer. Évaluer le déroulement du procès. Parce que quand même, c'est regrettable que dans une affaire comme celle-ci, pour l'image de la justice, la crédibilité de la justice, qu'on arrive à un procès où les avocats ne plaident pas. C'est très grave. C'est dommage qu'on arrive à un procès où on est obligé d'expulser un avocat d'une salle d'audience. C'est très grave. Mais allons plus loin. Le dispositif d'ensemble lui-même, dans lequel se déroule ce procès, c'est-à-dire la cour de répression, la loi sur l'enrichissement illicite, il y a un gros problème par rapport à la notion de procès équitable. Cette décision qui va tomber n'est pas susceptible d'appel. Or, la notion de procès équitable, mais la voie de recours est un aspect central de la notion de procès équitable.
pour rebondir sur cette question, après ce procès Karima, de toute façon, il y a aussi d'autres membres du PDS qui sont aujourd'hui aussi poursuivis, environ une vingtaine. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour, dans l'ordonnancement juridique de notre institution judiciaire par rapport à la CRI? Faut-il supprimer la CRI ou bien faut-il modifier certains articles contenus dans la CRI?
Moi, je vais donner une réponse plus large. Je pense que c'est tout le dispositif de lutte contre la corruption qu'il faut revoir. On a parlé de la CRI, du procès équitable, en quoi l'organisation actuelle. Parce que l'enrichissement illicite en tant qu'infraction, cela aujourd'hui, la plupart des pays considèrent qu'il faut avoir une telle incrimination, l'enrichissement illicite. Il faut poursuivre pour enrichissement illicite. Il faut lutter contre la corruption. Et le Sénégal ne le fait pas comme ça, de manière isolée. Il y a des conventions internationales, le Mérida, au plan de l'Union européenne, l'Union africaine, la CDAO, tout ça, il y a des conventions internationales qui obligent les États à avoir un dispositif de lutte contre la corruption. Maintenant, le gros problème, c'est que certains États font le service minimum sous prétexte d'être en adéquation avec les conventions internationales. On a eu ici une structure de lutte contre la corruption pendant des années qui n'a rien fait. D'accord ? Aujourd'hui, quel est le dispositif global ? Vous avez la CREI, vous avez la loi sur l'enrichissement illicite, vous avez les infractions de détournement de deniers publics, vous avez l'OFNAC, vous avez l'ARMP, les marchés publics, tout ça c'est un dispositif. Et nous sommes en train de réfléchir en tant qu'avocats pour faire une conférence internationale sur ces questions de la corruption.
C'est prévu pour
2015. Et on a des partenaires qui sont déjà en train de travailler avec nous. Il faudrait qu'on évalue tout le dispositif, mais en accord. Il y a une exigence qui est majeure. La justice doit être crédible. Ceux qui sont poursuivis doivent être à l'aise avec la décision, avec le déroulement du procès, avec leurs droits, l'exercice des droits de la défense. Il faut que l'on garantisse cela.
Est-ce à dire que le procès de Karima pourrait jeter un discrédit sur la justice sénégalaise?
Ah, si ce qu'on a dénoncé doit se reproduire encore, il y a un gros problème. Parce que le problème de la justice, c'est la confiance des citoyens. Si les citoyens n'ont pas confiance, les acteurs essentiels, les avocats n'ont pas confiance, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Sous prétexte de lutter contre la corruption, en réalité, vous discréditez davantage la démocratie et la justice. Et là, il y a un problème. Je pense que il y a une envie qui est bonne, il y a une direction qui est bonne. Il faut évaluer. Et il faut prendre du recul. Les poursuites ne doivent pas être politisées. Les poursuites ne doivent pas être sélectives. Les poursuites ne doivent pas être attentatoires aux libertés fondamentales, aux droits des gens. La notion de liberté est capitale. La détention, c'est l'exception, c'est pas la règle. Et ça aussi, c'est une valeur cardinale. Pour les gens épris de justice.
Une valeur cardinale pour les gens épris de justice, la lutte contre justement l'impunité, la bonne gouvernance, la démocratie.
Oui.
Vous avez fait vos premiers pas en politique à la LDMPT.
Merci de le rappeler.
Pour tout simplement vous interroger sur notre processus politico-judiciaire.
Oui.
On dit que quand la politique entre par la porte, la justice en sort par la fenêtre.
Bien sûr.
Avec le recul, avec tout ce cheminement pour en arriver là, dites-vous.
Oui, avec tout le recul et ce qu'on a vu, ce qu'on a commencé à voir, il y a matière à s'arrêter, évaluer, réfléchir et redresser. D'accord ? Encore une fois, personne n'est contre la lutte contre la corruption. D'accord ? Maintenant, c'est vrai que certains ne la veulent pas. Vous avez dans notre pays des gens qui ne veulent pas de la lutte contre la corruption. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vous ai rappelé l'exemple de la commission de lutte contre la non-transparence. Elle n'a rien fait. Et dans l'exposé, si vous regardez aujourd'hui l'exposé des motifs de la loi sur l'OFNAC, on vous dit que c'est un échec. Bon, on ne le dit pas comme ça. mais on dit que les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça veut dire
mais quel est le problème finalement? Est-ce que c'est l'Homo Sénégalensis ou c'est l'arsenal juridique ou justement
c'est un ensemble de choses.
Un problème de volonté politique?
C'est un ensemble de choses.
Le problème?
La volonté politique, c'est un, disons, elle n'est pas suffisamment forte pour aller le plus loin possible dans la lutte contre la corruption. Ça, ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis tout le temps au Sénégal. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que si vous comparez l'OFNAC à la commission qui était là antérieure de lutte contre la non-transparence, et la corruption et la corruption, l'OFNAC est un pas. Moi, j'étais à la cérémonie de prestation de serment et je l'ai signalé. Parce que l'OFNAC a des pouvoirs plus importants. Le destinataire des rapports d'enquête de l'OFNAC, c'est le procureur de la République. Alors que dans l'autre structure, on envoyait les rapports au président de la République. Vous voyez la différence? Et il n'y a pas que cela. L'OFNAC a des moyens d'agir. Leur budget, normalement, est disponible dès le début de l'année. Alors que les autres disaient qu'ils n'avaient pas de moyens. C'est pour ça qu'ils ne travaillaient pas.
Il a fallu quand même une sortie au vitriol pour se rendre compte aussi qu'il y avait beaucoup de manquements, notamment sur le budget, notamment sur certaines volontés à demander à des autorités qui gèrent les affaires publiques de se soumettre à cette loi.
Oui, très certainement. Très certainement qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances, mais je pense que le progrès est net.
Mais il n'y en a pas que l'OFNAC, il y a aussi l'IGE.
Oui, il y a l'IGE, la Cour des comptes, il y a l'ARMP, il y a énormément de structures. Maintenant, il faut. Est-ce que c'est un problème de dispositif, de structure, d'institution, de règles, d'hommes? Est-ce que c'est ce problème que nous avons ou est-ce que notre problème est plus complexe? Parce que moi, je considère que la volonté politique doit aussi doit s'affirmer de manière plus claire. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Sur les poursuites, il y a quand même matière à redire. Sur le pouvoir du parquet, le statut du parquet, il y a une réflexion à faire. Et vraiment, moi, je pense qu'il faudrait que, s'il y a de la volonté politique d'aller le plus loin possible, de fixer des règles claires qui s'appliquent à tout le monde, je pense qu'on a les compétences nécessaires pour arriver à trouver les bonnes formules. Moi, j'ai même l'impression qu'on a
un arsenal
qui est trop important. On aurait pu simplifier l'arsenal, les règles, les institutions, les mécanismes, mais faire en sorte que ça marche. Et ceux qui sont chargés d'appliquer les règles, de dire le droit, de poursuivre, de juger, ils doivent être irréprochables. Ils doivent être irréprochables.
Vous parlez de règles,
ils doivent être irréprochables. Surtout sur des questions comme celle-ci.
Mais les principes sont là. Tout le monde est d'accord qu'au niveau de la séparation, par exemple, des pouvoirs, c'est reconnu dans notre constitution. Mais
la volonté politique, c'est. On laisse passer trop de choses, on n'évalue pas. Les problèmes, il y a beaucoup de masla, entre guillemets, on ne va pas au fond des choses sur bien des questions. Quand il faut sanctionner, on ne sanctionne pas. Le mérite n'est pas le critère qui permet aux gens de monter dans la hiérarchie, etc. etc.
Vous ne pensez pas que c'est un peu grave, voire dangereux, voire grave même que quand même un avocat reconnaisse qu'il y a une justice sélective dans notre pays, ce qui veut dire que le deux poids, deux mesures, toujours ça va continuer. On prendra certains qu'on mettra en prison et d'autres qu'on va laisser tout simplement pavaner même s'ils ont commis des infractions.
Bon, en fait, l'avocat... ce n'est pas que l'avocat le dise qui est grave. C'est que ça soit une réalité qui est plus grave. Si ce que l'avocat dit est une réalité, ça c'est encore plus grave. Si vous êtes d'accord avec moi. Voilà.
Mais ça n'est une...
Voilà.
Et vous disiez antérieurement la corruption dans la justice. Cette corruption dans la justice, comment vous l'évaluez?
Ouh là là. Elle est difficile à évaluer parce qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas palpable. C'est pour cela aussi que même lutter contre la corruption qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable, est très difficile. Alors moi, je ne suis pas partisan de la dénonciation facile. Dire c'est un tel ou c'est un tel, non. C'est plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Ce que je veux inviter la corporation, les avocats ici au Sénégal, dans l'espace UEMOA, c'est de formuler des propositions réalistes. Et d'associer les acteurs. Parce que ce n'est pas l'affaire des avocats ou des magistrats ou des greffiers. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Mais les pouvoirs politiques ont une grande responsabilité. Les gros leviers, les leviers les plus importants, c'est eux qui les détiennent. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Et c'est son rapport avec la politique.
Ah, la politique
qui pose beaucoup plus problème.
La politique pose problème. La politique pose problème.
En quoi, expliquez-nous un peu.
Mais parce que, bon, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain qui est glissant, vous en conviendrez, mais la politique, en quoi elle pose problème par rapport à la lutte contre la corruption? Parce que dans la lutte contre la corruption, il y a plusieurs choses. Les phénomènes de détection, de prévention, et ensuite, lorsque la corruption est avérée, l'enrichissement est avéré, comment sanctionner? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est très large, en amont et en aval. D'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lutter efficacement contre la corruption si vous avez, vous-même, vous êtes traversé par des affaires qui inquiètent et sur lesquelles il n'y a pas de clarté? Question.
Question.
Et permettez-moi d'en poser de temps en temps.
Vous êtes avocat,
oui.
Forcément droit de l'homme.
Oui.
À votre avis, est-ce qu'il faudrait pas aujourd'hui permettre aux avocats de pouvoir assister quelqu'un qui est détenu même dès les premières heures de la garde à vue?
Alors ça, c'est devenu une réalité grâce au règlement UEMOA qui est entré en vigueur depuis janvier, le 1er janvier 2015, et qui est valable dans tout l'espace UEMOA. C'est une avancée majeure et il va falloir d'ailleurs...
Au Sénégal, c'est pas encore appliqué.
Non, c'est pas suffisamment appliqué, mais c'est applicable.
Oui, pour ceux qui...
C'est-à-dire que la disposition, elle est là, elle est effective. Oui. Aujourd'hui, vous êtes interpellé dès les premières, même pas la première heure, les premiers dès votre interpellation. Oui. Les minutes qui suivent, et ça c'est mon interprétation, vous pouvez dire j'ai besoin d'un avocat.
Ouais.
Et l'avocat doit pouvoir assister son client. C'est-à-dire que c'est pas il est là dans un coin, il attend qu'on lui ouvre la porte, il rentre et il fait 30 minutes, il repart. Non, c'est pas ça. Il y a tout un dispositif. Assister, ça veut dire être là, lui dire ne réponds pas à cette question. S'assurer qu'il n'est pas torturé, qu'il ne fait pas l'objet de sévices. S'il est malade, il a droit au médecin, ainsi de suite. Mais il y a tout un travail. Je ne vais pas dire que le règlement est venu trop tôt parce que nous y travaillons depuis plus de 10 ans. Mais, les conditions pour permettre l'effectivité de cette avancée considérable, ces conditions sont à réunir, à créer et à réunir. Et ça aussi, c'est un autre challenge.
Malheureusement, jusqu'à présent,
voilà.
Oui, c'est très... arrêté, dénonce qu'il
bien
faut
bien
arrêter
sûr,
dans
bien sûr. Oui. Voilà, et puis parfois, on attend c'est la disposition ancienne qui est dans le code pénal, le code de procédure pénale. C'est au moment de renouveler la garde à vue, après 48 heures, qu'on dit que vous avez le droit d'aller prendre un avocat. Et à quelque part où il est dit dans le code de procédure pénale que l'avocat vient... L'entretien avec le client ne doit pas dépasser 30 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'assiste pas.
Mais est-ce que cette disposition participe à la manifestation de la vérité? Le fait que l'avocat soit là dès les premières minutes de l'arrestation?
La disposition est capitale. Elle est capitale parce que l'avocat, vous savez, bon, les enquêtes préliminaires, on lit tous les jours ce qui se passe. Ou ce qu'on dit, ce qu'on dit des enquêtes préliminaires. Alors c'est bien qu'elles se fassent dans la transparence, dans le respect des droits des personnes qui sont interpellées.
Alors, oui. Ahmed Ba est bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal. Alors, nous parlons à présent justement de l'avocat. Justement en lien avec le justiciable. De plus en plus, maître, il y a beaucoup de dossiers, de dénonciations, en tout cas beaucoup de plaintes de la part du justiciable à l'encontre de vos collègues. Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion quelle est l'ampleur justement de ces dénonciations et qu'est-ce qui est retenu pour améliorer cette situation-là?
Alors, les plaintes, vous avez raison, sont trop nombreuses. Il y a beaucoup de plaintes. C'est difficile que le bâtonnier ne reçoive pas une à deux plaintes par jour. Donc, c'est vous dire qu'il y en a trop. Bien entendu, il faut faire la part des choses. Parfois, ce sont des manquements à l'obligation d'informer. On vous dira, j'ai constitué un tel que j'ai payé, il m'a demandé une provision que j'ai payée, le jour de l'audience, il n'est pas venu. On vous dira, l'avocat a recouvré, il a calculé ses honoraires de telle façon, je ne suis pas d'accord avec son calcul. Mais c'est vrai que parfois, vous avez des choses qui sont beaucoup plus graves. L'avocat encaisse des sommes et ne fait pas les règlements convenablement. Ça, c'est une réalité, je ne vais pas le nier. Bon, malheureusement, enfin, ou heureusement, moi, je tiens à ce que lorsque un client écrit pour faire une plainte, qu'il ait une réponse et que l'ordre traite son dossier. Ça, c'est important. Mais nous sommes en train de réfléchir pour trouver une solution vraiment qui nous permettra, qui permettra aux bâtonniers qui vont venir, peut-être moi-même avant la fin de mon mandat, de ne plus recevoir de plaintes. Parce que je discute, hein, l'avocat, c'est aussi les bonnes pratiques ailleurs. Vous savez, on a la CARPA. La CARPA, c'est la caisse de règlement pécuniaire des avocats. Alors, donc, c'est une caisse où tous les deniers reçus par l'avocat sont déposés à la banque dans un compte unique qui est le compte ouvert au nom du bâtonnier. Et chaque avocat a un sous-compte de ce compte. Donc, la règle, c'est que l'avocat, après avoir déposé les sommes reçues pour le client pendant un délai de 8 jours, doit liquider, c'est-à-dire prélever ses honoraires et faire le chèque qui revient à l'avocat. Nous, jusqu'à présent, la façon dont la CARPA fonctionne ici au Sénégal, c'est que l'avocat a un chéquier pour son sous-compte. C'est lui qui fait la liquidation tout seul. Il signe le chèque pour ses honoraires et il signe le chèque pour le client. On a envie d'aller vers ce qui se fait au Burkina Faso, ce qui se fait à Paris, ce qui se fait dans d'autres barreaux, où tous les montants qui arrivent sont centralisés par la CARPA elle-même. Et l'avocat dit, voilà, le calcul, mes honoraires c'est tant, faites un chèque pour moi, pour mes honoraires, et faites un chèque pour le client. Mais rassurez-vous, dans les pays qui pratiquent le système de cette manière, il n'y a presque pas de plainte contre les avocats.
Et justement, voilà. Le justiciable peut vous saisir.
Oui.
Quelle est la procédure?
Une simple lettre dit, voilà, j'ai tel problème. Il s'adresse à monsieur le bâtonnier, il dépose la plainte à la maison de l'avocat. Mais vous savez, les procédures sont contradictoires. Quand on reçoit une plainte, on lit, on envoie une demande d'explication à l'avocat, on lui dit 8 jours pour votre réponse. Voilà, s'il ne répond pas à 8 jours, je fais un rappel. Mais en général, moi, je fais un seul rappel. Et si je fais un rappel, je n'ai pas de réponse, je désigne parfois un rapporteur. Et si le rapport arrive, je peux amener l'affaire au conseil de discipline si je considère qu'il y a des manquements. Et si le rapporteur conclut à des manquements. Donc, on essaie de faire en sorte que cette procédure soit huilée.
Oui, soit voilà. Huilée. Ablaye, avant justement d'entamer la modernisation de la justice, mais parler au niveau des avocats, puisque nous avons comme invité un bâtonnier, donc qui est là, qui représente les avocats, à vous.
Oui, le secret d'instruction, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la justice. Pendant ce temps, parallèlement, nous qui sommes de la presse aussi, nous tenons au droit de l'information qui est consacré dans la constitution. Au 21e siècle, est-ce qu'aujourd'hui il est acceptable que l'on puisse retrouver, selon vous, les instructions qui se font dans l'enquête préliminaire dès le lendemain dans les médias, ou bien est-ce qu'on doit continuer avec cette ancienne méthode visant tout simplement à garder en secret les instructions?
Ma réponse, elle est simple, c'est-à-dire qu'on ne doit pas retrouver dans la presse des actes de procédure, qu'il soit de l'enquête préliminaire ou de l'instruction. Ça, c'est ma position. Et c'est ça la bonne règle. D'accord ? Pour préserver le secret de l'instruction. Et pour préserver aussi la vie, la dignité des gens. Parce que même ceux qui ont maille avec la justice, ils ont une dignité, ils ont des libertés, ils ont des droits. D'accord ? Il faut préserver cela. Mais le droit à l'information, il faut aussi l'aménager. C'est pour cela que moi, je laisse beaucoup la parole aux gens, les gens qui me disent je veux faire un point de presse, une conférence de presse, je dis toujours, voilà, les lignes, imaginons à ne pas franchir, mais sinon, parler. Donc, on peut informer l'opinion sur une affaire sans avoir à violer le secret de l'instruction. Ça, c'est possible. Il faut trouver cet équilibre. Malheureusement, on le cherche et demain, on va faire une journée à Sali sur les règles professionnelles, où on va examiner le décret, la loi sur les avocats, le règlement intérieur. On revient beaucoup sur ces questions. Secret de l'instruction, le droit à la communication. Vous savez, il est interdit à l'avocat de rechercher une publicité personnelle. D'accord ? Or, vous le savez, il y en a qui cherchent la publicité sous prétexte qu'ils communiquent, et sous prétexte de satisfaire à droit d'information. En réalité, c'est de la recherche de la publicité déguisée. Alors, comment faire la ligne de démarcation entre tout cela. C'est pas toujours simple.
Oui, c'est pas toujours simple. Alors, oui. Maître, parlons maintenant de la modernisation de la justice. En parlant de la modernisation de la justice, allusion aux acteurs que sont les avocats. Justement, la professionnalisation des avocats aujourd'hui est devenue une question importante, surtout dans le domaine de la bonne gouvernance. De ce point de vue, qu'est-ce qui est envisagé de votre côté?
Alors, nous insistons beaucoup sur la formation des avocats. J'ai eu à en parler. Nous insistons également beaucoup sur la recherche de ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends. D'accord ? L'arbitrage des justices privées. L'arbitrage, malheureusement, l'arbitrage a la réputation d'être cher. Là, on vient de faire un séminaire sur la médiation et il y a un nouveau décret sur la médiation qui est un chantier très important. Vous trouverez d'ailleurs le texte sur le site de l'Ordre, ordredesavocats.sn. Et c'est un chantier porteur. Et où aujourd'hui, il fait un peu l'unanimité. Aussi bien le ministère de la Justice, il y a l'accompagnement de la Banque mondiale, le programme de gouvernance économique. On travaille sur cet important dossier pour pouvoir désengorger les rôles des cours et tribunaux. Où il y a beaucoup d'affaires et parfois il n'y a pas assez de bras. Les magistrats sont submergés. On leur demande de rendre, parce que dans le code de procédure civile aujourd'hui, on vous dit que la décision doit intervenir au bout de 4 mois. D'accord ? Et lié à tout cela, la célérité, le climat des affaires, vous voyez, les indicateurs doing business, c'est un ensemble de choses qui appellent les acteurs vraiment à prendre des initiatives, mais d'abord les pouvoirs publics, et ils le font, il faut dire, sur la médiation. Vraiment, c'est un chantier important. Et qui requiert l'adhésion des magistrats, des avocats, pour vraiment qu'on arrive à désengorger les rôles, mais qu'on arrive à résoudre certains conflits, n'ont pas besoin d'aller au tribunal. Il y a aujourd'hui une expérience intéressante dans les maisons de justice, qui arrive pour les conflits, voilà, certains conflits de tous ordres, hein, à les régler, les boutiques du droit. Donc vraiment, mais la modernisation, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que vous avez beaucoup d'audiences. Et parfois, les avocats qui sont seuls dans leur cabinet, c'est pas évident. Vous pouvez avoir en une journée 4 ou 5 audiences. Et vous êtes seul dans votre cabinet. Comment vous faites? Alors, donc, on réfléchit aussi à la dématérialisation des procédures judiciaires. Faire en sorte que, aujourd'hui, aller à une audience juste pour dire je demande le renvoi, vous en avez 10 comme ça. Vous vous levez 30 secondes, je demande le renvoi. Le tribunal vous dit on renvoie à telle date. Vous vous rasseyez. Peut-être qu'on peut faire en sorte que, avec les nouvelles technologies, que tout cela se fasse et qu'on permette à l'avocat de gagner du temps, mais aussi aux magistrats qui doivent juger. S'ils ont moins d'affaires, parce que certaines affaires empruntent la voie de la médiation, ils pourront se concentrer, travailler mieux leurs décisions, rendre les décisions dans des délais raisonnables et surtout rendre des décisions de qualité.
Et cela devrait passer par l'autonomie. En parlant d'autonomie, c'est un peu la lutte contre la précarisation quand même du métier d'avocat.
Ah oui, tout à fait. Et là, on a nous des chantiers en termes de formation. On a beaucoup parlé de l'école des avocats. Et le président de la République a dit plusieurs fois, la première rentrée solennelle, la dernière qui vient de s'organiser, la CIB que nous avons tenue au mois de décembre, le président a dit de manière forte qu'il entendait accompagner les avocats dans ce projet, l'école des avocats. La dernière fois d'ailleurs, il a dit qu'il allait mettre un terrain à la disposition des avocats. Donc ça veut dire que nous pouvons, ce que nous faisons pour la formation aujourd'hui, si nous avons l'école des avocats, on peut le multiplier par 10. Mais pas seulement pour les avocats, pour les métiers du droit. Des jeunes qui sortent aujourd'hui, qui des différentes écoles, qui ont des master 1, master 2, ce serait bien qu'ils s'initient, qu'ils apprennent le métier, le travail, dans une structure de transition, parce que l'université et le lieu de travail, entre les deux, il y a un chaînon. Et ce chaînon-là, je pense que l'école des avocats et d'autres structures professionnelles peut vraiment remplir, faire en sorte qu'il y ait une bonne articulation entre l'université et le travail, et le lieu de travail.
Oui, oui. Toujours en parlant de la modernisation, beaucoup de gens évoquent aussi l'indépendance de la justice. À votre avis, pour obtenir cette indépendance de la justice sénégalaise, est-ce qu'il faut rompre le cordon ombilical entre le parquet et le ministère de tutelle?
Il faut revoir le statut du parquet. Moi, ça me paraît capital. Mais il faut revoir aussi la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne doit pas être constitué que de magistrats. Aujourd'hui, en France, il y a une ouverture. Les avocats ont un représentant au Conseil supérieur de la magistrature. C'est une avancée.
Demain,
ben oui, tout à fait. Les avocats, mais aussi la société civile. Et d'autres, l'université, pourquoi pas.
Mais est-ce que le fait que pourquoi le président de la République, le chef de l'État, continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature avec le ministre de la Justice qui est son adjoint, est un frein pour
l'indépendance de la justice?
C'est vrai que nous, par le passé, on a eu à poser ce problème et à dire qu'il fallait la rupture du cordon ombilical. Mais bon, c'est vrai qu'il faut une réflexion peut-être plus poussée pour tirer cette conclusion-là. Mais davantage d'indépendance, y compris des magistrats du parquet, ça ne serait pas plus mal pour la justice.
Ça ne serait pas plus mal pour la justice, toujours sous l'angle de la formation, de la lutte contre la pauvreté, mais surtout par rapport à la question de la perspective. Pour une démocratie vitale, le processus de démocratisation, aujourd'hui, quelle est justement la solution dans le cadre de la lutte pour l'amélioration de la démocratie par rapport à une justice indépendante, autonome? Mais l'avocat aussi a son rôle et sa place à jouer dans le cadre de la protection aussi des intérêts du citoyen. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'avocat sénégalais est bien outillé pour être là où il est attendu?
Bon, il y a certainement des améliorations qui sont attendues, parce que l'avocat sénégalais est déjà très fortement préoccupé par son quotidien, par l'exercice de sa profession au quotidien. Mais il est vrai, et il faut être juste avec les avocats, ils sont nombreux aujourd'hui, qui sont impliqués dans les questions de droits de l'homme, dans les questions de politique, dans les questions de gestion des communautés décentralisées. Donc, là, je pense que ce qu'il faudrait, c'est déjà que l'on essaye, nous, avocats, acteurs, de nous investir davantage pour un meilleur fonctionnement de la justice. Et je pense que c'est le meilleur service qu'on peut rendre à la démocratie. Parce que si la justice est crédible, si elle est forte, si elle fonctionne, si elle est respectée, si elle a la confiance des citoyens, c'est un pas important vers la démocratie, à mon avis. C'est la consolidation de la démocratie.
Oui, mais quelle est la place de la spécialisation
La spécialisation des avocats? Alors, la spécialisation des avocats, dans mon entendement à moi, c'est pour élargir davantage le champ de compétences de l'avocat. Faire en sorte qu'il dépende moins du contentieux et des tribunaux. Si l'avocat peut être... Parce qu'aujourd'hui, vous avez des affaires importantes qui échappent à l'avocat. Pourquoi? Parce que les gens sont plus rassurés à aller prendre un cabinet américain, un cabinet français. Mais il n'y a pas que... Pourquoi ils sont plus rassurés? Parce qu'ils se disent que l'avocat n'a pas toujours les compétences. Et c'est vrai. Il n'a pas toujours les compétences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cabinets qui n'ont pas les compétences. Mais nous, nous travaillons pour que la plupart des avocats aient les compétences dans les domaines les plus pointus du droit. Que ce soit la propriété intellectuelle, que ce soit les investissements, que ce soit l'arbitrage international ou autre chose. Les fusions, acquisitions, etc. Le droit des mines. Sur toutes ces questions, nous sommes en train de réfléchir à une formation pointue. Pas seulement faire un séminaire une fois de temps à autre. Il y a une vision derrière. C'est-à-dire faire des séminaires, mais arriver à pouvoir dire d'ici un an, d'ici deux ans, je veux avoir 10, 15, 20 avocats spécialisés dans le domaine des marchés publics. Idem dans le domaine de l'arbitrage international. Dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est pas impossible. Et on a déjà bien démarré ce chantier. On a eu des résultats en peu de temps, considérables. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers nous pour faire la formation. On a fait des formations intéressantes avec des structures internationales, au niveau local, avec des professeurs, avec l'université, avec l'ARMP, on a un partenariat, etc. Oui. Donc, nous pensons que d'ici deux années plus tôt, nous pourrons arriver à un niveau de spécialisation qui fera que plus personne ne va snober les avocats sénégalais.
Et qu'en est-il de la justice internationale? L'Afrique s'organise, il y a le procès Abré pour prendre son destin en main avec le procès Abré. Il y a aussi le président ivoirien qui est jugé à la Cour internationale, mais ici en Afrique, par rapport au dossier Abré, pour obtenir quoi?
Alors, le dossier Abré, et ça, je pense à notre garde des Sceaux, qui aime bien agiter ces questions et qui a une vision très claire. Il considère, et il a raison, je pense que ce point de vue est pertinent, il faut faire en sorte que nos juridictions nationales soient aptes et compétentes pour juger certains crimes, certaines infractions, celles qui nous poussent à nous tourner vers la Cour pénale internationale ou à créer des chambres extraordinaires ou des juridictions d'exception. Il faut que nous ayons des juridictions normales qui soient capables de connaître de ces faits et de les juger. Mais c'est un gros chantier.
Un gros chantier. Alors, nous revenons sur le cas Karim Ouad. Le verdict est attendu. Vous, en tant que bâtonnier de l'ordre, quelles leçons tirer et justement, quel appel comptez-vous lancer?
Alors, le procès Karim Ouad, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde doit être à l'écoute de la Cour pour connaître sa décision. Mais, quelle que soit la décision, il faudra que l'on puisse s'arrêter, comme je l'ai dit tantôt, évaluer et savoir s'il faut continuer dans la même direction ou s'il faut, même en continuant dans la même direction, faire des réglages. Pour que tout le dispositif de lutte contre la corruption soit un dispositif pertinent, crédible et qui ait la confiance de tout le monde. C'est peut-être ça qu'il faut dire. Maintenant,
l'absence de double degré de juridiction, ça vous inquiète pas?
Non, ça, je pense que c'est un gros problème. C'est un gros problème et je ne suis pas le premier à le dire. Je ne suis pas le premier à le dire. Même des magistrats l'ont dit et écrit. Et on ne les a pas entendus, malheureusement.
Et finalement,
faudrait peut-être qu'on entende ceux qui le disent.
Oui, la finalité, la partie adverse de la défense, donc, n'a pas du tout jugé opportun de participer à ce procès. N'êtes-vous pas habité par le regret de ce côté?
Ah si, il faut le regretter. Il faut le regretter et je ne suis pas seul à le regretter. Je suis sûr que même la Cour le regrette. Elle aurait voulu peut-être avoir un procès, j'allais dire, qui se déroule et qui soit exemple de reproche, on va dire. Même la Cour, les magistrats, tout le monde, tous ceux qui sont préoccupés par le devenir de la justice sénégalaise auraient voulu voir le procès certainement se dérouler autrement. Et peut-être que la bonne leçon, c'est qu'il faut tirer des leçons pour les autres, s'il doit y en avoir.
Les autres qui?
Les autres procès. Du genre, dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Peut-être que c'est ça, la bonne leçon.
Mais le combat est à continuer, la lutte contre la traque des biens supposés mal acquis.
Ah oui, je pense. Maintenant, comment? À partir de quel réglage? À partir de quel paramètre? En prenant quelle direction? Mais je pense que c'est une demande forte, la lutte.
Et la gestion, politique des affaires de l'État. De plus en plus, on voit des hommes politiques immensément riches par rapport justement aux difficultés dans lesquelles sont plongés nos États. Vous avez voyagé, vous êtes un avocat, un très haut avocat, mais quand vous voyez des situations comme ça et que d'autres sont même poursuivis pour enrichissement illicite, vous dites quoi finalement?
C'est un problème qui est dramatique en réalité. Mais ce qui est important, c'est donnons-nous des règles qu'on puisse appliquer à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la situation que vous décrivez, ils doivent répondre devant la justice. Mais répondre devant la justice, c'est pas, vous ne pouvez pas sortir ou bien vous êtes tout de suite arrêté, etc. Non. Parce que parfois le plus difficile, c'est de trouver les biens qui ont été dissipés. Et ça, c'est le plus important pour les recouvrer, n'est-ce pas? Ça, c'est le plus important et c'est le plus difficile.
La licité ou l'illicité de l'infraction par rapport à...
En fait, c'est pas tellement l'infraction, mais je veux dire, lorsque vous dites que quelqu'un s'est enrichi de manière illicite, on peut discuter sur la preuve, qui doit le prouver. Parce que ça aussi, c'est un grand débat. Qui doit le prouver? La charge de la preuve est inversée. Mais bon, je pense que il faut qu'on ait les moyens, déjà, au lieu d'attendre que, il est fini de dissiper, de s'enrichir, etc., qu'on ait des mécanismes qui permettent déjà de détecter. quelque chose qui ressemble à la corruption.
Ça, c'est un grand problème.
Détecter.
La fuite des capitaux, c'est un grand
problème. Ah ben oui, c'est un énorme problème, pas seulement pour nos États. Que ce soit en Europe, ailleurs, partout, vous avez suivi ce qui s'est passé avec la banque HSBC. C'est un problème dans le monde.
Si, si Bayou Malgré, pour me le permettre, l'actualité aussi, c'est cette fameuse sortie d'Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que c'est un dérapage. Et moi qui me fait de la peine, parce qu'Abdoulaye Wade est un avocat honoraire. Il est sur notre tableau. Un avocat honoraire, c'est un avocat qu'on offre aux autres avocats comme étant un modèle. Mais il est sous notre juridiction, c'est-à-dire qu'on aurait pu l'interpeller et lui demander des comptes par rapport à...
Et qu'est-ce que vous en pensez de faire?
Je pense que si on considère que c'est un dérapage, et aujourd'hui même ceux qui sont avec lui considèrent que c'est un dérapage, peut-être qu'il a le temps d'exprimer ses regrets. Mais ça devrait pouvoir suffire.
En tout cas, c'est le mot de la fin. Maître Ahmed Deba, ça a été un honneur de vous recevoir comme quatrième invité de grand format. Avec moi aujourd'hui, Ablaye Cham de Sud Quotidien. Ablaye également à vous. Je ne vous dis pas merci puisque nous le faisons ensemble. Et justement, honneur aux techniciens qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Maître, votre dernier mot avant de conclure.
Juste vous remercier. De me donner l'occasion de communiquer. On me reproche de ne pas le faire.
Ça a été.
Bon, c'est un exercice difficile, mais je vais.
Ça a été fait.
Je vais essayer. Voilà.
Vous allez essayer. En tout cas, nos portes vous sont toujours ouvertes.
Merci beaucoup.
Et merci également à vous autres auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la 98.5. Donc, merci et certainement à très très bientôt. Au revoir.